jour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver en direct après cette pause estivale. Chers amis auditrices et auditeurs à l'esprit libre et curieux, avec Thibaut Baduel à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses, nous vous proposons une rentrée placée sous le signe du changement de regard et de perspective sur nous-mêmes et sur les autres, tous les autres, à commencer par les micro-organismes qui nous composent. Que doit-on aux microbes et aux bactéries que l'on héberge en quantité dans notre intestin, sur notre peau et qui font de nous ce que nous sommes, des écosystèmes probablement plus bactériens qu'humains. Qu'est-ce que cette révolution microbiotique et microbiomique implique à toutes les échelles et dans tous les domaines du vivant? Et pourquoi ça ouvre tant de questions biologiques, bien sûr, mais aussi philosophiques, anthropologiques et même politique. Nouveaux défis posés par les microbiomes, c'est le thème d'un colloque international et interdisciplinaire du CNRS qui se tiendra le 15 septembre prochain à Jussieu, à l'initiative de notre invité, le biologiste et philosophe des sciences Éric Batteste, autour de la question « Jusqu'où nous entraînerons les microbiomes et pourquoi ça change tout ?» Bienvenue.
Je suis un être humain et mes cellules sont issues de l'œuf, résultant de la fécondation de l'ovule de ma mère par le spermatozoïde de mon père. Et toutes ces cellules qui ont proliféré, ça a fabriqué mon corps. Et moi, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je croyais que c'était ça, moi. Et puis j'ai découvert que non. Qu'en fait, ça, c'est un petit bout de moi. Et qu'il y a un énorme bout qui est constitué de bactéries microscopiques. Et qu'en fait, je suis un écosystème.
Nous sommes tous des écosystèmes, c'est le biologiste Pierre-Henri Gouillon qui nous le rappelait en introduction. De quoi nous ébranler peut-être, nous faire réfléchir, nous interroger en tout cas. Bonjour Éric Batteste.
Bonjour.
Voilà pourquoi, alors vous qui êtes directeur de recherche au CNRS avec une double casquette, j'ai envie de dire, à la fois spécialiste de microbiologie évolutive et philosophe des sciences, vous organisez, c'est même la quatrième édition, le 15 septembre prochain, un colloque international et interdisciplinaire sur les nouveaux défis posés, soulevés par les microbiomes. Alors des défis dans tous les domaines, pas seulement biologiques ou médicaux, mais aussi philosophiques, anthropologiques, juridiques et même politiques, comme on va le découvrir avec quelques-uns des intervenants de ce colloque au cours de cette émission. Mais d'abord, Éric Batteste, de quoi parle-t-on exactement quand on parle de microbiote? On a entendu parler, hein, microbiote intestinal et de microbiome.
Alors c'est une distinction qui est faite pour aller à un niveau de précision particulièrement subtil. On sait qu'on a des microbes qui vivent associés avec nos corps. Ces microbes, on peut leur donner des noms d'espèces par exemple. Et donc, quand on énumère cette liste de microbes, on peut parler du microbiote qui est là avec nous. Mais ces microbes, ils ont également des fonctions qui sont codées par des recettes, les gènes à l'intérieur des microbes. L'ensemble des gènes dans les microbes, ça s'appelle le microbiome. Donc, si on veut faire la distinction, on peut regarder qui est là et quelles sont les instructions génétiques qu'ils apportent avec nous, en nous.
Alors, on a beaucoup parlé du microbiote intestinal, donc de tous ces microbes, cette flore intestinale, c'est comme ça qu'on l'appelait avant. Qu'est-ce qui a changé finalement? Pourquoi est-ce qu'on en est venu d'abord à découvrir, je ne sais pas si c'est vraiment une découverte d'ailleurs, mais qu'on avait des microbiotes partout, sur la peau, dans la bouche, enfin voilà, qu'il y en avait tant que ça. Et puis ensuite, leur importance et le microbiome.
Je pense qu'il y a deux choses. Ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a des microbes qui vivent sur les corps humains. Ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a des microbes, du coup, qui vivent également en dehors des corps humains. Sur les cailloux, dans la mer, dans le sol.
Partout.
Partout. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces différents microbes peuvent être connectés en communauté, communauté fonctionnelle, avec des échanges, échanges d'informations génétiques, échanges de métabolites, ça veut dire échanges de ressources énergétiques. Et tous ces microbiomes, en fait, de par leurs liens, peuvent réaliser des actions qui sont bien plus grosses que la taille d'un seul microbe. Il y en a qui peuvent nous rendre malades, il y en a qui peuvent faire cycler les éléments sur la planète. Et donc là, pourquoi les gens s'intéressent à ça et comment ils en viennent à se concentrer davantage sur les microbes, c'est parce qu'il y a maintenant des méthodes pour essayer de révéler la présence des microbes bien plus puissantes qu'il n'y avait auparavant. On peut en fait chercher leurs instructions génétiques dans les tissus, dans les organismes et comme je le disais, à l'extérieur des organismes, plein de données.
Donc on peut être de plus en plus précis. Un de nos auditeurs à Kinshasa, je le cite parce qu'il pose la question que vous venez de soulever. Au fond, il dit, mais pourquoi est-ce qu'on dit que les microbes sont dangereux et pourquoi d'autres disent qu'ils sont essentiels pour notre survie? Comment expliquer cette ambiguïté finalement?
C'est très intéressant. Il y a une dimension historique certainement et il y a aussi une dimension de modélisation. Comment on conçoit les microbes? Est-ce que c'est nos amis? Est-ce que c'est nos ennemis? Si on a déjà envie de répondre à cette question-là, ça va changer absolument la manière de se confronter aux microbes.
Déjà de poser la question, ce ne sont pas que des ennemis.
Oui, et ce n'est pas forcément une question qui est si naturelle que ça en réalité, parce que si je devais aller jusqu'à la conclusion, ce que je ne voulais pas faire maintenant, c'était de dire qu'en réalité, c'est le contexte qui va largement déterminer si un microbe donné, dans un état de santé qui est le mien, de fragilité qui est le mien, est nuisible, néfaste pour moi, ou au contraire bénéfique ou neutre. Donc en fait, il y a des microbes qui ne sont pas plus méchants que ça ou pas plus gentils que ça, mais pris dans un contexte, dans ces fameux réseaux, dans cette interaction dont on parlait, qui vont s'avérer tenir un rôle ou bien négatif pour notre santé ou bien positif pour notre santé.
Un rôle essentiel, fondamental, qui au fond remet aussi en question, c'est ce que disait Pierre-Henri Gouillon, notre identité, notre statut. On s'est longtemps pensé humain, uniquement humain, or on est au moins aussi microbien qu'humain.
En tous les cas, on est interconnecté. Et c'est ça qui est très important.
Ah, c'est ça la différence. Ouais.
On est un morceau d'un réseau, qui est dynamique. Et de toutes ces connexions sortent un certain nombre de propriétés, nos états mentaux, notre santé. Et ça va dépendre de toutes ces connexions. Donc c'est très important. Est-ce que ça nous rend moins humains, plus humains ou humains différemment? J'aime bien l'image d'écosystème, parce que je pense que c'est une bonne image, mais qui nous rappelle qu'un écosystème est connecté aussi au reste du monde et à d'autres écosystèmes. Donc j'aime encore plus l'image d'un réseau. Nous sommes un réseau.
Nous sommes un réseau et tous les vivants, au fond, sont un réseau.
Oui, absolument.
Autour de la question, comment ce concept de réseau, de microbiote, de microbiome est-il devenu central et comment, alors vous parlez de réseau, on pourrait parler aussi de symbiose, d'hybridation, se retrouve-t-elle, on l'a dit, jusque dans nos gènes, aussi plus bactériens qu'humains ou autant bactériens qu'humains? Je propose d'écouter l'éclairage de Muriel Thomas. Elle est directrice de recherche à l'INRAE où elle étudie les effets des microbiotes, du microbiote intestinal, du microbiote pulmonaire aussi sur la santé digestive et respiratoire.
On savait depuis très 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 longtemps que des bactéries habitent notre intestin. En revanche, ce qu'on a découvert de façon plus récente, c'est qui sont ces bactéries. Puisque jusqu'à, on va dire, au début des années 2000, on savait qu'elles étaient là, mais on ne savait pas qui elles étaient, tout simplement parce que beaucoup d'entre elles sont très sensibles à l'oxygène. Elles ne sont donc pas très facilement accessibles ni cultivables. Et si elles sont si bien au fin fond de votre intestin, c'est parce qu'elles sont très sensibles à l'oxygène et donc elles s'y cachent. Et donc il a fallu attendre la révolution de l'étude des génomes et du séquençage à haut débit pour connaître leur génome et donc pour savoir mieux qui elles sont et connaître leur identité.
Et du coup, c'est vraiment un changement de regard, de perspective sur nous-mêmes, sur notre corps, sur nos organes, sur ce que nous sommes.
Oui, parce qu'en fait, il faut davantage se considérer comme une interface entre nos propres cellules et tous ces micro-organismes. Nous sommes un écosystème, c'est-à-dire différentes populations de cellules faites soit par nos propres cellules, soit par les bactéries qui sont sur notre peau, dans notre bouche, par exemple, dans notre cavité nasale, mais aussi et majoritairement dans l'intestin.
Vous voulez réagir à cet éclairage, Éric Batteste, de Muriel Thomas?
Je peux dire que cet éclairage reflète absolument bien la perception qu'on a maintenant consensuellement parmi les scientifiques de la place des microbes et de leur rôle, de leurs interactions avec le corps humain, et met en avant cette notion, sans l'avoir verbalisée, de co-construction. C'est-à-dire qu'on ne se fabrique pas tout seul. On est en partie en train de se fabriquer avec les microbes que nous abritons.
C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement fabriqué par nos parents et donc par les gènes hérités, on est fabriqué par l'environnement et par les autres vivants que
exactement.
Nous côtoyons, dont les microbes, dont les micro-organismes qui nous entourent.
Et exactement. Et puis ça, c'est un petit peu l'enjeu de savoir quelle est la dimension humaine de l'être humain si, en partie, nos traits humains sont co-construits, viennent en partie de partenaires.
C'est très troublant, c'est troublant pour la santé physique, c'est aussi troublant pour ce qui est de la santé mentale, parce qu'on a beaucoup parlé de l'influence de nos microbiotes et du microbiome en général sur la santé mentale. Il y a de nombreuses études qui mettent en avant ça, sur notre humeur et même sur des pathologies type dépression ou autre.
Alors ça, effectivement, il faut faire attention avec ces études-là. Il y en a qui sont sérieuses, il y en a qui sont de la hype, donc il faut se méfier parce que, évidemment, on a des très petites choses invisibles qui peuvent avoir des très grands effets. Donc, on peut tout leur mettre sur le dos et on peut, si on est mal intentionné, gagner de l'argent de cette manière-là sur les peurs des différentes personnes, par exemple. Mais réellement, c'est effectivement une recherche très importante et très sérieuse de savoir quelle est la part de la santé mentale qui est influencée, impactée par notre microbiome.
Il y aura d'ailleurs dans ce colloque que vous organisez international, interdisciplinaire, sur les nouveaux défis des microbiomes, une communication du professeur Pierre-Marie Liédot de l'Institut Pasteur, qui travaille justement sur les gènes et la conscience. Sa communication est intitulée « Microbiome et santé mentale ». Est-ce que ça pourrait du coup nous emmener vers des traitements, peut-être faire de la prévision par rapport à des troubles de santé mentale?
Deux choses à signaler, ce sera probablement un assistant du professeur Liédot ou un collègue du professeur Liédot qui sera là ce jour-là pour des raisons d'emploi du temps. Mais effectivement, ça pose une question qui est très intéressante et j'ai découvert à cette occasion qu'il y avait des journaux de psychiatrie moléculaire, j'avais aucune idée qu'il y avait des choses comme ça qui existaient. Et donc effectivement, ça montre bien que pour des questions qui semblent relever du psychisme de l'humain, on a besoin d'avoir un œil microbien sur la question.
Et un œil microbien sur la question, ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains microbes, un peu comme on connaît la toxoplasmose qui peut influencer certains animaux, les rendre fous, que certains microbes peuvent jouer dans un sens ou dans l'autre,
oui,
dans notre cerveau, dans notre corps?
Exactement, il y a cette question de la communication entre des êtres vivants qui semblent très différents parce qu'en termes d'évolution, ils sont séparés depuis des milliards d'années, mais il y a cette communication qui passe, des signaux qui sont échangés et il faut comprendre ce que peuvent, depuis par exemple l'intérieur de nos intestins, les microbes, en termes d'influence qu'ils peuvent faire sur le fonctionnement de notre cerveau. C'est une réalité qui est en train d'être étudiée et donc ça pose vraiment des questions importantes parce qu'on se parlait d'hybridation, on se demandait qui nous sommes et puis évidemment si qui nous sommes dépend de qui nous abritons, ça ouvre évidemment la frontière vers des nouvelles disciplines ou des approches interdisciplinaires pour progresser dans ces questions-là.
Des approches interdisciplinaires, c'est ça, pour effectivement ne pas tomber dans le panneau de dire tout est microbien, ce qui n'est pas vrai non plus. Enfin, vous-même, d'ailleurs, Éric Battès, vous menez des recherches actuellement, je crois que vous travaillez sur le vieillissement, et là encore, vous m'avez dit, moi, la phrase m'est restée, nous ne vieillissons pas seuls. C'est-à-dire que c'est un ensemble qui vieillit, nos microbes aussi. Enfin,
oui,
c'est eux qui nous font...
Non, c'est très intéressant, effectivement. Les théories classiques du vieillissement et de l'évolution des vieillissements expliquent l'évolution dans le cadre d'un arbre des espèces où les différents membres de différentes espèces divergent depuis un ancêtre commun. Mais comme nous vivons dans un réseau, qu'est-ce que devient le vieillissement dans un réseau avec des interconnexions et par exemple des virus, des microbes qui peuvent infecter des êtres humains en train de vieillir? Est-ce que ça va ralentir ou accélérer leur vieillissement? On se pose ce type de questions au laboratoire.
C'est donc complètement fou l'impact en fait, les études que ça génère et les questions que ça ouvre.
Oui, c'est fou, mais il y a une raison. En fait, c'est une folie très rationnelle.
Ouais.
Les microbes sont les premiers habitants de la planète.
Eh oui.
Ils sont partout. Et donc, tous les gens qui étudient des phénomènes, à un moment donné, ont la possibilité que ce phénomène soit en partie produit par des microbes. Et c'est pour ça qu'on les voit arriver comme des vecteurs un peu d'unification de différentes disciplines. Quelqu'un qui s'intéressait au vieillissement il y a 50 ans n'allait pas forcément se poser la question de est-ce que les microbes contemporains me font vieillir? Mais aujourd'hui, ça a du sens. Quelqu'un qui faisait du droit il y a 50 ans ne se demandait peut-être pas quelle était la place des microbiomes. Mais aujourd'hui, ça a du sens. Quelqu'un qui faisait de l'éthique ne se demandait peut-être pas comment bien traiter mes microbiomes pour bien faire. Mais aujourd'hui, ça a du sens. En politique, de la même façon. Donc, on a un objet, les microbes, qui sont partout. Et donc, même s'ils ne sont pas nécessairement au centre des différentes disciplines, c'est un objet d'étude commun à différentes disciplines. Et ça peut rassembler.
D'accord. Donc, au fond, on en est dans l'interdépendance, la co-construction, la coévolution du vivant avec les microbes, enfin, de tout le vivant ensemble, vous l'avez dit, en réseau, en écosystème. Et on est aussi dans une forme d'unification des disciplines. On est obligé de travailler ça à plusieurs et en réseau aussi.
Ça a du sens de se poser la question d'un phénomène et se dire, par exemple, on parlait du psychisme, la santé mentale. Si c'est en partie médié par des microbes, on ne peut pas y penser sans microbiologiste. Mais on ne peut pas non plus y penser sans physiologiste. Et puis les conséquences juridiques, quand par exemple on n'est plus responsable de ses actions, on ne peut pas y penser sans juriste. Donc on voit ici que les microbes, c'est un bon moyen pour que différentes disciplines se rencontrent et parlent de la même chose, mais de plein de prismes différents, complémentaires.
Autour de la question jusqu'où nous entraînerons nos microbiomes, nous ne sommes pas, chers amis auditrices et auditeurs, au bout de nos surprises. On continue de s'interroger sur cette révolution, même si vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur le terme microbiomique, dans tous les domaines, y compris en biologie, mais pas seulement, juste après avoir écouté cette chanson de Circonstance, signée Heather Nova sur RFI, Not Only Human. Morning is almost here. Let it wait. I just wanna lie here a while. Tempting fate. I don't think I could breathe now. With you gone, but it's not weakness. It's just something I've begun. Not Only Human, Heather Nova sur RFI. Autour de la question, pourquoi sommes-nous plus bactériens qu'humains et jusqu'où nous entraînerons les microbiomes? Nous sommes en compagnie du microbiologiste de l'évolution Éric Battès, qui est aussi philosophe des sciences, auteur entre autres de Tous entrelacés et des gènes voyageurs, l'Odyssée de l'évolution aux éditions Belin. Éric Battès est aussi l'organisateur du colloque international et interdisciplinaire sur les nouveaux défis posés par les microbiomes dans tous les domaines. Une sorte de révolution qui implique et rassemble tous les êtres vivants en interdépendance. Comme nous expliquait ici même le professeur Patrice Debré, éminent immunologiste, auteur de L'homme microbiotique et des révolutions de la biologie, qui préfère lui parler de symbiose. Écoutez son éclairage jusqu'au bout parce qu'il vaut le détour.
Il y a énormément d'images des symbioses dans la nature. Peut-être une qui m'a le plus fasciné est celui des poissons des abysses. Vous savez, pour se diriger dans le noir, il se trouve que les poissons ont dans leur paupière inférieure des bactéries phosphorescentes. Quand elles ferment les yeux, eh bien, elles voient tout noir et elles dorment. Quand ces poissons ouvrent les yeux, eh bien, au contraire, c'est le phare des bactéries qui leur permet de se diriger.
Donc ces bactéries-là sont les yeux, enfin les lumières et les yeux
de ces poissons des profondeurs. Voilà.
C'est-à-dire qu'au fond, à tous les niveaux et à toutes les échelles, dans la nature, ce qu'on pensait être un être vivant, c'est en fait une multitude d'organismes vivants qui cohabitent ensemble, qui collaborent ensemble, c'est quand même
un peu ça.
Oui,
c'est ce qu'on découvre de plus en plus. Mais vous savez qu'au-delà de ces microbes entiers, nous avons dans notre génome, une bonne partie de rétrovirus et d'autres microbes qui nous ont intégrés. Donc en fait, on passe par des états de cohabitation, dans lesquels on s'en service l'un l'autre, jusqu'à parfois une intégration complète du génome de l'espèce étrangère.
Ça a changé votre approche, parce que j'imagine à vos débuts en immunologie, on était bien loin de cette conception et de ces microbiotes.
Peut-être un certain nombre de concepts et de réflexions ne pouvaient-ils pas avoir lieu en réalité il y a une dizaine ou une vingtaine d'années, tout simplement parce que nous n'avions pas l'approche possible que nous avons aujourd'hui. Vous savez, je suis à me dire, au fond, finalement, on fait des grands programmes pour la découverte de l'espace, mais allons-y, faisons-le aussi pour nos espaces intérieurs.
Nos espaces intérieurs qui sont multiples, qui sont peuplés de micro-organismes, de bactéries, qui sont des véritables écosystèmes. On rejoint aussi cette pensée en écosystème. Aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est un peu partout. C'est une pensée écologique, on n'est pas seulement ce qu'on est, on est beaucoup de choses, on est en interdépendance. C'est vrai à tous les niveaux, ça, Patrice Debré.
Oui, absolument. Et selon que, encore une fois, vous parcourez vos différents espaces intérieurs, depuis la bouche, la cavité buccale, jusqu'aux espaces terminaux de votre intestin, vous allez trouver des écosystèmes qui sont en fait relativement différents. Et nous commençons par le baiser, bien sûr.
Ah, absolument. Et on va terminer là-dessus, hein, sur le baiser qui transporte pas mal de micro-organismes et de bactéries.
Beaucoup de micro-organismes. C'est d'ailleurs dit comme étant un des facteurs possibles vaccinal pour lutter contre les microbes pathogènes comme ceux du cytomégalovirus.
S'embrasser ?
C'est proposé comme une théorie qui permet en effet de se vacciner contre ce virus.
Embrassons-nous, c'est comme ça qu'on pourrait se vacciner contre les virus. C'est absolument génial, la proposition de Patrice Debré. Qu'en pensez-vous, Éric Battès ?
Je ne sais pas, il faut faire attention au Covid également.
Ah oui, ça
marche un peu dans tous les sens.
Et oui, bien sûr.
Non, mais j'ai retenu beaucoup de choses de l'intervention de M. Debré, notamment l'idée des organes symbiotiques, qui est une idée qui montre, qui est très importante de voir que tant chez des plantes que chez des animaux, il y a des organes qui sont un lieu d'habitation pour des microbes, souvent des bactéries, associés à des hôtes et qui effectivement produisent des fonctions qui sont intéressantes, qui émergent de ces collectifs, de ces associations hôtes microbes. La lumière, la bioluminescence dont il était en train de parler, c'était un très bon exemple, mais également la fixation de l'azote, la fixation du carbone, la production de toxines. Donc il y a différentes études en cours pour comprendre, parmi les organes des êtres vivants, quels sont ceux qui sont construits à plusieurs et à quoi ils servent.
Construits à plusieurs, ça c'est incroyable, absolument. Notre placenta, humain d'ailleurs, hein, enfin pour tous les mammifères, vient des virus. C'est une co-construction là pour le coup.
Oui, alors sur une durée évolutive beaucoup plus longue, mais évidemment, oui, c'est des choses très importantes et pertinentes. Et puis j'ai retenu l'idée de s'embrasser, parce que ça m'a fait penser à une œuvre du bioartiste François-Joseph Lapointe, qui, lui, a fait une œuvre, Le baiser de l'artiste, certainement, ou qui s'appelle encore autrement, parce que ce nom a déjà été pris, évidemment, comme vous le savez, également pour une autre œuvre d'art. Et qu'est-ce qu'il a suivi, François-Joseph Lapointe ? Il a suivi comment les différents microbes dans sa cavité buccale, sur sa langue, se transforment quand il embrasse sa femme. Et il a représenté ça sous forme d'un réseau qui montre sa transformation d'être humain, son identité. Il appelle ça des selfies microbiens, comment il se transforme en embrassant.
Ah,
donc
génial.
Ça donne lieu à de l'art, c'est ça que je voulais dire.
Mais c'est ça
pas
donne
simplement
lieu
à des vaccins.
Et pas seulement à de l'amour.
Virtuel, mais oui, exactement, et ça donne lieu à de l'art.
Et puis, le professeur Patrice Debré a aussi parlé d'espace. Hein. Il dit finalement, on lance des programmes pour la découverte de l'espace, mais pensons aussi à nos espaces intérieurs. Sauf que dans l'espace, vous avez même une communication hein, dans ce colloque à ce sujet d'une planétologue, parce que finalement, on peut quoi ? Finalement, quand on se transporte dans l'espace, on transporte tous nos microbiomes et tous nos microbiotes et donc tous nos microbes.
Donc il y a des réflexions. Est-ce qu'on a le droit d'aller ensemencer les autres planètes ? Est-ce qu'on doit faire attention ? Est-ce qu'on doit stériliser l'équipement qu'on envoie ? Dans quelle mesure on peut le faire ? Et s'il y avait de la vie sur d'autres planètes, typiquement Mars, quand on ramènerait des échantillons, est-ce que ce ne serait pas dangereux ? Est-ce que pareil, il ne conviendrait pas de stériliser ce qu'on ramène ? Donc il y a une dimension de protection de la planète autour des microbiomes et de ces résistances incroyables qu'on trouve chez les microbes.
C'est ça. Donc au fond, protéger notre planète nous-mêmes, protéger les autres planètes, puisqu'au fond, c'est un va-et-vient incessant. Autour de la question jusqu'où nous entraînerons les microbiomes, ça promet, et c'est, moi je trouve, bien plus énorme que ce qu'on pouvait imaginer dans tous les domaines. Alors avant de découvrir comment la prise en compte du microbiome a des conséquences éthiques, anthropologiques, et modifie aussi carrément les rapports nord-sud et biopolitiques, je propose d'abord, Éric Battès, de retourner, comment dire, en cuisine, pour découvrir comment, depuis toujours, nous cuisinons avec et grâce aux microbes et aux bactéries. Ça s'appelle la fermentation, et ça marche pour absolument tous les animaux et toutes les boissons, hein, on pense à la bière évidemment. C'est l'historienne de l'alimentation Marie-Claire Frédéric qui l'expliquera dans votre colloque, l'autrice de « Ni cru, ni cuit, histoire de la civilisation de l'alimentation » s'en explique à notre reporter Stéphane Duguay.
La cuisine et l'alimentation a été impactée déjà par le microbiome pendant la préhistoire. Parce que les humains, avant d'avoir inventé la cuisine, avant d'avoir le feu, parce qu'on faisait déjà fermenter des aliments, c'est-à-dire qu'on les faisait transformer par des micro-organismes. Les premiers aliments qui ont été transformés comme ça, c'est le gibier, la viande, puisqu'on la faisait faisander, on la faisait rassir avant de la manger. Et donc, c'est une transformation par des micro-organismes qui vont attendrir la viande. Quelques dizaines de milliers d'années plus tard, on a inventé l'agriculture. Eh bien, on a continué à faire ça pour faire des réserves de nourriture, parce que la fermentation permet de conserver les aliments sur de très longues périodes. Et surtout, ça enrichit nutritionnellement l'aliment.
Alors, vous me disiez que ça rend les aliments plus sains. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Alors, ça les rend plus sains parce que déjà, comme il y a des microbes utiles qui sont dans ces aliments-là, eh bien, ces microbes défendent en quelque sorte l'aliment contre les pathogènes extérieurs qui pourraient arriver dedans. En plus, ça va enlever certains toxiques. Par exemple, la fermentation du lait en fromage va enlever le lactose, ce qui fait que les intolérants au lactose peuvent manger des fromages affinés. Dans les céréales, il y a aussi une substance qui s'appelle l'acide phytique qui nous empêche d'assimiler les minéraux. Et bien, la fermentation de la céréale en pain au levain va éliminer l'acide phytique, hein, ce qui fait que nous allons pouvoir continuer à assimiler ces minéraux. Et ça rend l'aliment plus digeste aussi. Parce que c'est comme si l'aliment avait été prédigéré par les micro-organismes. Pour moi, la fermentation, c'est la base de la cuisine. Parce que dans toutes les cuisines du monde, on utilise des produits fermentés.
La fermentation ou l'art de cuisiner avec des microbes, ça se pratique depuis toujours, comme l'expliquait cette historienne de l'alimentation, et sous toutes les latitudes. Les humains, même sans avoir fait d'expérience scientifique, ont bien compris qu'il fallait fermenter pour conserver les aliments.
Je me demande, dans le futur, puisqu'on connaît mieux les microbes maintenant, si on va développer une espèce de cuisine microbienne, comme il y a une cuisine moléculaire, là, pour jouer sur les mots, ça serait vraiment intéressant. Les biologistes synthétiques ont des défis qui leur sont proposés. Les biologistes synthétiques sont des gens qui construisent des organismes qui sont transformés dans le but de remplir des fonctions différentes. Par exemple, des communautés de microbes synthétiques peuvent être élaborées pour blanchir la sauce soja. Parce qu'il y a certaines personnes qui trouvent que la sauce soja est trop sombre. Et donc, on peut la transformer. Elle est déjà issue de fermentation, la sauce soja, mais on peut la transformer.
Grâce à des microbes synthétiques, donc des copies synthétiques.
Oui. Des copies qui sont fabriquées par des ingénieurs du vivant qui ont pour effet, quand ils sont mis ensemble, ces différents microbes, de blanchir la sauce soja. Donc, on peut imaginer dans le futur une cuisine microbienne.
Pour le meilleur ou pour le pire ? Je ne sais pas, justement.
J'en ai aucune idée, mais j'ai l'impression que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut également aller dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on peut remonter vers l'alimentation du passé. On peut regarder comment l'alimentation, dans l'histoire de l'humanité, s'est transformée. Avant d'être ici, en France, une alimentation largement occidentalisée, c'était un autre type de régime alimentaire qui était à l'œuvre. Et ça se traduisait par l'ingestion d'autres microbiomes. Donc il y a des indices, il y a des traces dans l'étude des microbiomes du passé, de ce qu'on mangeait autrefois. Donc on peut faire de l'alimentation et de l'histoire de l'alimentation en étudiant les microbiomes.
Il y aura d'ailleurs une communication autour des momies et du microbiome des momies dans votre colloque. C'est absolument hallucinant. Donc on va dans le futur, mais on peut remonter très loin dans le passé autour des microbes qui ont fait de nous ce que nous sommes.
Et si j'ai bien compris, alors depuis l'âge de bronze, les humains consommaient de la bière et du fromage bleu.
C'est-à-dire du fromage fermenté et de la bière partout dans le monde à partir de la fermentation.
En tous les cas, pour ces momies-là qui avaient été étudiées, qui datent de l'âge de bronze. Donc on a un éclairage ici qui est sur une grande échelle de l'histoire humaine. Et puis on a des éclairages qui sont, peut-être on va en parler par la suite, sur une échelle plus restreinte avant la colonisation, après la colonisation.
Et bien justement, on y arrive. Parce que c'est vraiment une des communications les plus étonnantes, les plus inspirantes de votre programme, je trouve, à mon avis. C'est celle que va donner l'anthropologue Frédéric Keck sur, alors je cite sa communication, les microbiomes, les restes humains et la biopolitique. À partir en fait d'une recherche collaborative que cet anthropologue mène avec des microbiologistes canadiens et des archéologues sénégalais autour des microbes, écoutez bien, des microbes calcifiés dans le tartre dentaire contenus dans une série de crânes liés à des rites funéraires et conservés à l'IFAN, l'Institut fondamental d'Afrique noire à Dakar, sur le campus de l'université Cheikh Diop. Une trentaine de crânes datant du 19e siècle qui ont été, on peut le dire, pillés par un anthropologue belge en 1965. Alors Frédéric Keck nous explique pourquoi et comment ce projet totalement interdisciplinaire apporte un éclairage inédit, non seulement sur les sociétés d'avant la colonisation, mais aussi ça pourrait contribuer au débat sur la restitution du patrimoine africain. On écoute Frédéric Keck.
Ça ouvre des pistes à la fois d'anthropologie historique, c'est-à-dire de comprendre les modes d'alimentation et d'hygiène de sociétés antérieures à la colonisation. Et puis ça ouvre des pistes pour une anthropologie sociale des groupes sénégalais aujourd'hui, puisque tout l'enjeu de cette recherche est aussi éthique. Il s'agit de partager le savoir biologique avec les sociétés concernées, c'est-à-dire avec les descendants des personnes dont on analyse les restes humains.
Voilà pourquoi votre communication s'intitule « Restes humains et biopolitique ». Il s'agit aussi du coup de pouvoir alors non seulement restituer le patrimoine africain, mais aussi le travailler en collaboration avec les chercheurs africains sur place, de restituer finalement tout ce qu'on peut aujourd'hui comprendre et découvrir grâce aux microbiotes et aux microbiomes.
Tout à fait. Nous jouons sur les deux sens du terme de restitution. Il s'agit d'une part de restituer le savoir biologique que l'on peut produire sur les crânes conservés dans les laboratoires et les musées. Mais il s'agit peut-être à terme de restituer ces crânes eux-mêmes, ces restes humains, et de trouver des bonnes façons de les faire revenir à leur lieu d'origine. Alors, ces crânes sénégalais, la question du lieu d'origine est particulièrement sensible puisque ce sont des griots qui étaient enterrés dans des baobabs. Ces baobabs, aujourd'hui, sont considérés comme des sépultures de plus en plus fragiles du fait que ces arbres tombent. Et donc, il y a une dimension de conservation du patrimoine qui n'est pas seulement, justement, rendre des crânes à des familles, mais aussi penser la conservation de ces lieux de sépulture. Alors, tout l'enjeu de cette anthropologie des microbes, c'est justement de réouvrir les questions sur les sociétés que pose l'anthropologie sociale, mais en voyant comment les recherches microbiologiques les plus récentes posent ces questions autrement. Donc dans le contexte de la restitution, par exemple, du débat sur la restitution du patrimoine africain, ce que l'on faisait autrefois dans l'étude de l'alimentation ou des pratiques d'enterrement prend une nouvelle forme parce que ces pratiques peuvent être rapportées à des changements des microbes conservés dans les dents des crânes.
Frédéric Keck parle de l'anthropologie des microbes. C'est à la fois hallucinant et totalement génial, tout de même, Éric Battiste.
C'est très intéressant. Il y a à faire attention toujours aux contaminations. Parce que quand on a du matériel qui date d'un certain temps, mais qui n'a pas été préservé dans des conditions qui empêcheraient les microbes contemporains ou postérieurs de se déposer dans les échantillons, on a le risque que ce qu'on regarde ne corresponde pas nécessairement à ce qui était associé, par exemple ici, au crâne dans le passé. Donc il y a bien sûr une dimension de contamination à maîtriser, c'est essentiel. Mais si on a confiance dans la qualité des données qu'on a produites, alors là on a des choses extraordinaires à faire avec. Et je vais connecter ça avec une autre discipline, parce que je trouve que les microbiomes connectent bien les disciplines, qui est en cours de développement, et c'est l'étude des thanatobiomes. C'est l'étude des microbiomes des cadavres. Ce sont également des études de médecine légale pour savoir un corps, par quel environnement il est passé. Donc là, on avait l'exemple de crânes et de gens enterrés dans des baobabs.
On récupérait le tartre dentaire.
Et donc, on peut voir avec les microbiomes un indice du lieu de la sépulture et du mode de sépulture. Mais les policiers se posent en fait les mêmes questions.
Bien sûr.
Et se poseront de plus en plus les mêmes questions dans le futur, quand ils vont trouver un corps, quand il y aura une scène de crime. Est-ce que c'est à cet endroit que le corps avait été tué, les microbiomes pourront parler à ce sujet. Est-ce que la personne qui a été tuée dans des conditions qu'on peut préciser, par des objets qu'on peut préciser sur la base de microbiomes associés à ces objets? Là, on aura également cette information.
Ah oui, c'est donc fou. Pour les policiers, mais aussi pour les archéologues, on pourra faire parler les sépultures grâce aux microbiomes.
Nonobstant les contaminations, si on arrive à faire attention aux contaminations, on pourra effectivement avoir l'environnement, le contexte de la vie si ce sont des gens qu'on aimerait étudier tant dans le passé que dans le présent.
Est-ce que vous aviez idée, en organisant ces colloques autour du microbiome et du microbiote, on l'a bien compris, dans un but finalement interdisciplinaire, de réunifier les disciplines, mais que ça vous et ça nous entraînerait aussi loin quand même, philosophiquement, éthiquement, mais pas seulement, que je trouve, Éric Battès, qu'on soulève comme ça des questions majeures.
Ok, j'avais l'idée qu'il y avait des microbes partout, donc que ça pouvait intéresser beaucoup de gens et beaucoup de disciplines. J'ai compté que dans le colloque, on avait 21 disciplines qui étaient représentées jusque-là. Je pense qu'on n'en a pas fait le tour, donc il y en aura plus. Donc oui, évidemment, c'est surprenant. Je ne m'attendais pas à inviter des anthropologues, des paléo-anthropologues, quand j'ai commencé à imaginer cette série de colloques.
Et est-ce que ensuite ça débouche aussi sur des collaborations, enfin, parce que c'est aussi un colloque où effectivement on a des paléontologues, on a des chercheurs en sciences politiques, on a une historienne de l'alimentation, on a des généticiens, des médecins, etc. Est-ce que du coup ça donne des idées à l'un et à l'autre, et puis de tous les pays, hein?
Ça peut. Alors il y a une juriste qui s'appelle Géraldine Haïdan qui a beaucoup d'idées de collaboration pour travailler avec un docteur en biologie qui s'appelle François-Joseph Lapointe et avec moi-même pour réfléchir à qu'est-ce que c'est le droit dans un réseau et quel statut juridique conférer au microbiome. Mais ça, c'est mon tout beau cas. La plupart du temps, on est ravis de s'écouter les uns les autres, de s'ouvrir les yeux les uns des autres sur ce qu'on apprend et comment on étudie les microbiomes. Idéalement, effectivement, on souhaiterait qu'il y ait des collaborations qui soient mises en place. C'est une autre organisation, un autre budget.
Un autre budget. Alors, on arrive à d'autres questions. Mais vous l'avez dit, il y a des questions juridiques, politiques, éthiques, évidemment, qui sont soulevées par les microbiomes. On va y venir en quelques instants avec, j'ai envie de dire, c'est peut-être votre invité d'honneur cette année, l'ancien président du... Non, ce n'est pas votre invité d'honneur.
Tous mes invités sont mes invités d'honneur.
Ça, c'est bien. En tout cas, vous invitez également l'ancien président du Sénat du Chili, Guido Girardi, initiateur et vice-président de la Fondation pour le Futur, autour de la question jusqu'où nous entraînerons les microbiomes, pour le meilleur comme pour le pire, et pourquoi ça change tout, juste avant de retrouver ce sénateur chilien qui viendra nous parler microbiome et politique, on écoute la superbe voix de Mamani Keïta et Nicolas Repac qui chantaient Enchante le changement de perspective sur RFI en Bambara. Changement, ça se dit Yelema.
Yelema yelema so mo ya kara yelema yelema so eh Yelema yelema so mo ya kara yelema yelema so eh Yelema yelema so mo ya kara yelema yelema so eh Madonna,
Yelema, le monde change en Bambara, dans la voix de Mamani Keïta avec Nicolas Répac sur RFI. Autour de la question jusqu'où nous entraîneront les microbiomes, nous sommes en compagnie d'Éric Batteste, biologiste et philosophe des sciences, organisateur du colloque international et interdisciplinaire autour des nouveaux défis posés par les microbiomes, colloque auquel vous avez convié Éric Batteste le 15 septembre prochain à l'université de Jussieu à Paris, une personnalité politique du Chili, un humaniste engagé. C'est Guido Girardi, ancien président du Sénat chilien, grand ami d'Edgar Morin, fondateur et vice-président de la Fondation pour le Futur, qui s'interroge sur la meilleure manière de préserver le vivant et le meilleur de l'humanité. Après avoir pensé les neurodroits dans le métavers, Guido Girardi, joint par téléphone à Santiago du Chili, nous explique en quoi la protection du et des microbiomes est-elle aussi un enjeu politique et législatif international et essentiel. On l'écoute.
Le microbiome, c'est l'origine de la vie. Le microbiome, c'est dans tous les êtres vivants. C'est le soutien de tout ce qu'on connaît. Le microbiome, c'est ce qui maintient la température, la chimique, l'oxygène. Et dans les êtres vivants, nous sommes tous des holobiontes, c'est-à-dire tous les êtres vivants, en plus de microbiomes, en plus de bactéries que de cellules propres. Et le microbiome joue un rôle fondamental dans la vie de la planète comme un être vivant, mais dans la vie de chacun des êtres vivants. Dans l'humain, le microbiote, c'est un deuxième cerveau, c'est un système fondamental pour la vie. C'est beaucoup de nos problèmes de santé mentale, nos problèmes de désir sont en relation avec le microbiome. Mmh. Et c'est un capital fondamental à garder. Et en deuxième terme, on est en train de changer le microbiome. Par exemple, quand on utilise les antibiotiques, la moitié de ces antibiotiques dans le monde humain sont mal utilisés. Par exemple, 75% des antibiotiques sont utilisés pour l'élevage des animaux et c'est très mal utilisé. Donc, l'humanité est en péril de détruire une ressource qui est fondamentale pour la vie. Et moi, j'ai été sénateur, j'ai été président du Sénat chilien, et moi j'ai fait une loi pour les aliments ordures, c'est une étiquette frontale noire qui, en tous les aliments, sont hauts en sucre, en sel, en calories et en graisse. Et si tu as un disque, tu ne peux pas avoir d'avertissement dans la télévision, tu ne peux pas vendre dans les lycées, et on l'a fait dans 32 pays. En Mexique, en Argentine, en Uruguay, et on ne le fait pas en Europe parce que vous êtes prisonniers des lobbies des grandes entreprises de l'aliment ordure. Avec Raphaël Juste, on a fait une loi de neurodroits pour protéger le cerveau parce que dans le monde de l'intelligence artificielle, le champ de bataille, ce sont les cerveaux et l'extraction des données va être fondamentale. Donc on a fait une loi qui est un modèle mondial, qui sont les neurodroits. On peut faire des initiatives. Ici, au Chili, on a fait une loi de la nature, on a fait une loi pour réguler les antibiotiques, justement parce qu'il y a une utilisation qui fait dommage à la microbiote. Et la microbiote devrait être, du point de vue légal, mise comme une zone de protection fondamentale pour le futur de la vie.
Le microbiome, zone de protection fondamentale pour le futur de la vie. Vous en pensez quoi, Éric Batteste, de ce que vient de nous dire Guido Girardi?
Je pense que c'est très intéressant et je pense que c'est très ambitieux. Et aussi, ça pose la question de la place des microbiomes dans le débat politique contemporain.
Oui, oui.
Est-ce que c'est un sujet en devenir? Est-ce que c'est un sujet de moindre importance, d'importance comparable, voire plus important que d'autres qui sont pour l'instant débattus? Et comment un homme politique progressiste peut avoir envie de traiter ces questions et peut motiver d'autres personnes à travailler avec lui pour faire changer la législation? C'est ce que j'ai demandé à Guido, en fait, dans ce congrès. Comment, en pratique, on peut faire de la politique autour des microbiomes? Est-ce qu'aujourd'hui, avec les nombreux défis qui sont posés, ça a un sens? Puis sa réponse semble être que ça a un grand sens parce que c'est extrêmement important de protéger les microbiomes pour nous protéger tous.
Et donc, c'est vraiment un sujet politique qu'on n'entend pas beaucoup débattre par nos gouvernants, même pas du tout. D'autant que ça fait aussi partie du rôle du microbiome. Le microbiome pourrait aussi être utilisé pour dépolluer la planète.
Oui, alors le microbiome, effectivement, de nombreux usages éventuels. Dès lors qu'on sait stabiliser des communautés microbiennes, protéger des communautés microbiennes, transformer des communautés microbiennes, on peut imaginer utiliser toutes ces interactions dans un but de moins dépendre des procédés polluants industriels, de les remplacer par l'action de communautés de microbes. On peut imaginer...
C'est ça, dépolluer des sols. On a une chimiste, Paul Grison, qui dépollue les sols.
Et alors là, avec Lucas Vic, qui viendra au congrès, il devrait nous raconter comment des autoroutes en champignons permettent à des bactéries qui sont capables de dépolluer certains composés chimiques de se distribuer dans les sols.
Elles prennent les autoroutes champignons.
Elles prennent les autoroutes champignons, les bactéries. Mm-hmm. Et donc, on voit ici une idée d'une communauté avec des biotechnologies à développer pour dépolluer. Parce qu'en emmenant les bactéries qui peuvent détruire certains composés toxiques à l'endroit où elles devraient aller plus vite, plus efficacement, eh bien, ça peut participer de la restauration d'un environnement.
Donc, il y a vraiment des pistes extraordinaires pour le futur. On n'a pas abordé, parce que Caroline Paré l'a fait dans Priorité Santé ce matin, on n'a pas abordé, Éric Batteste, toute la piste des nouveaux médicaments, hein, évidemment, autour du, notamment du microbiote intestinal. Mais il y a plein de pistes, hein, pour développer de nouveaux médicaments.
Oui, et puis là, c'était vraiment l'occasion de souligner qu'il y a de nombreuses disciplines qui sont concernées par l'étude des microbiomes. Ça va de la médecine, on a vu, à la politique, au droit, à l'anthropologie.
Ouais, c'est énorme.
On a parlé d'art, on a parlé... C'est beaucoup de choses. C'est intéressant pour beaucoup de gens.
Qu'est-ce qui vous fascine le plus, justement ? Qu'est-ce qui vous étonne le plus dans cette... voilà, autour du microbiome et autour de cette unité des disciplines. Comment est-ce que, finalement, ça fonctionne en réseau, dans la recherche ? Qu'est-ce qui vous étonne le plus ?
Ce qui m'intéresse le plus, c'est que on a une vision de moins en moins anthropocentrée.
Eh oui.
Ça m'intéresse.
Il n'y a pas l'homme et l'humain uniquement. On est beaucoup de choses en même temps. Hein.
Et ce qui me fascine le plus, du coup, c'est qu'on découvre des processus qui ne ressemblent pas du tout au processus qu'on connaissait associé à la biologie humaine. Donc, on découvre une nouvelle biologie. Ça, je trouve vraiment que c'est très excitant. Mais au-delà de la biologie, la capacité à se parler, spécialiste, expert de différentes disciplines dans différentes pratiques, je pense que c'est le plus enrichissant sur un plan humain.
Eh bien, pour vous enrichir, chers amis professionnels, peut-être auditeurs et auditrices, voilà, je vous signale ce colloque international, la 4e édition, auquel je participerai aussi, hein, pour justement chercher comment est-ce qu'on peut parler du microbiome à la radio.
Les gens peuvent s'y inscrire,
c'est à Jussieu. C'est donc le 15 septembre prochain avec, il n'y a pas plus interdisciplinaire que ce colloque sur les défis posés par le microbiome. Je rappelle aussi, Éric Batteste, quelques-uns de vos ouvrages. Alors, vous avez écrit pour les enfants, Le monde surprenant des microbes aux éditions Circonflexe. Et pour les adultes, on va citer Tous entrelacés, des gènes aux superorganismes, Les réseaux de l'évolution, paru aux éditions Belin. Et puis, je vous signale aussi, chers amis auditrices et auditeurs, si vous êtes professionnel de santé en Afrique, en Amérique latine ou en Asie et que vous voulez monter un projet de recherche autour du microbiote intestinal, vous pouvez concourir pour le prix de Santé publique Henri Boulard, initié par la Biocodex Microbiote Fondation, qui attendent donc vos projets autour de programmes qui peuvent être comme promouvoir les bonnes pratiques nutritionnelles, le projet d'assainissement d'eau usée, des campagnes de réduction de la mortalité infantile. Ce prix, en tout cas, récompense des initiatives locales en lien avec le microbiote intestinal, susceptibles d'avoir un impact significatif sur la santé des populations. Le lien est sur notre page Facebook et sur le site du prix Henri Boulard. À bon entendeur.
Écoutez Autour de la question sur l'application RFI Pure Radio et sur toutes les plateformes de podcast.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez aussi nous retrouver en rediffusion à 23h, temps universel. Et bien sûr, vous abonner à notre podcast. Avec Thibaut Baduel à la réalisation et Caroline Fuyette en coulisses, nous vous donnons rendez-vous demain pour nous intéresser à une autre recherche de pointe stupéfiante et qui a le vent en poupe, la recherche autour des psychédéliques. Et oui, LSD, psilocybine, MDMA, seront-ils les médicaments du futur ? Pourquoi et comment pourraient-ils soigner dépression, stress post-traumatique ou encore plus paradoxal, les addictions ? Piste de réponse à la fois très mesurée et très étonnante de la chercheuse Lucie Berkovitch, à suivre avec modération bien sûr demain. Merci pour votre curiosité, surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.